Bonjour, autre radio, autre culture, émission également qui sera diffusée sur Audio People, Audio Fanzine et 6e Paris Jazz. Aujourd'hui, nous recevons Bernard Follon. Bonjour Bernard.
Bonjour Marion.
Ça va ?
Oui, ça va.
Bonne forme. Alors Bernard est engoncé dans son anorak, dans son écharpe, à croire qu'il ne fait pas chaud dans ce studio.
Non, mais c'est parce que je viens d'arriver avec la moto et il fait moins 6, donc voilà. J'ai quelques excuses aujourd'hui.
Avec Bernard, nous allons parler de son studio, Studio Meudon, à Meudon.
Oui. Le nom c'est véritable. Le studio de Meudon, voilà.
Le studio de Meudon.
Tout simple.
Et parce que Bernard est spécialiste des pianos.
Oui.
Alors nous avons, en compagnie de Bernard, Antoine Bouvy, qui a bien voulu revenir.
Bonjour.
Également Christophe Bouillot. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Et Alain Lukim, qui est sorti de son bain. Bonjour Alain.
Bonjour.
Comment est venue cette idée de monter un studio de musique en étant, d'après ce que j'ai compris, accordeur de piano?
Je pense que c'est vraiment à force de pratiquer ce métier d'accordeur de piano, d'abord pour des sociétés comme Anlay, l'importateur de Steinway à Paris, et puis ensuite pour mon propre compte, que j'ai vu la pénurie de bons pianos qu'il pouvait y avoir, même à Paris, pour l'enregistrement. J'ai été bien sûr appelé assez souvent pour aller entre guillemets sauver une séance parce que le piano n'était pas terrible ou il n'avait pas été accordé depuis quelques jours. Et donc ça a été mon quotidien pendant pas mal de temps. J'ai beaucoup d'amis musiciens dans le classique, dans le jazz, etc. Et donc c'est vrai que ça a été assez récurrent. Ça ne m'a pas donné envie tout de suite de monter un studio, mais c'est vrai que ça a été quand même une imprégnation relativement fréquente. Et ça a dicté ce projet que j'ai voulu effectivement le plus spécialiste possible en piano, avec des beaux pianos, le service qui va avec, etc.
Voilà. Alors je vais être très dur là. Le fait qu'il y ait des problèmes au niveau des enregistrements, cela vient vraiment du piano ou cela vient d'un manque de compétences de l'ingénieur du son ?
C'est pas l'ingénieur qui doit s'occuper de ça. Le piano, c'est vraiment un métier à part, c'est une entité à part, je trouve. Tous les instrumentistes arrivent en studio avec leurs instruments. Il n'y a que le pianiste qui soit doit louer, soit doit se soumettre à l'instrument qui est dans le studio. Et pour ça, c'est vrai qu'économiquement, il est plus intéressant quand on a un studio d'enregistrement d'avoir son propre piano. En général, son propre piano, il n'y en a qu'un. Mais il y a souvent des économies sur l'entretien du piano, le réglage, toute la préparation et l'accord ou les accords dont on a besoin quotidiennement pour qu'un pianiste puisse arriver à exprimer un projet avec brio, avec plaisir, qui rentre dans sa séance. C'est pas facile d'enregistrer.
Le fait d'avoir fait un studio dans une ancienne usine à Meudon, est-ce que cela a posé des problèmes particuliers ?
Alors, je pense que tout projet de studio pose des problèmes, puisqu'il faut à un moment se protéger des bruits extérieurs, déjà dans un premier temps, et puis protéger l'extérieur de ses propres bruits. Donc, le mécanisme de travail, c'est de réaliser une boîte dans la boîte, un élément acoustique assez performant et un peu lourd, etc., en termes de mise en œuvre. Pour être protégé des bruits extérieurs, pour que chaque cabine soit isolée, pour plein de contraintes. Et ensuite, à l'intérieur de cette boîte, il faut retravailler l'acoustique pour qu'on puisse avoir un petit taux de réverb, une pièce pas trop mate, un endroit où le son soit suffisamment vivant pour faire ce qu'on voulait faire là-dedans. Voilà. Donc, le fait que ce soit dans une usine, dans un cube de béton, etc., de toute façon, il y a quand même des problèmes de mise en œuvre importants. Si j'ai réalisé ce projet dans cet endroit, c'est qu'au départ, cet endroit m'a plu. Tout simplement, il m'a plu. Il y avait une lumière zénithale que je trouvais intéressante, qui diffusait dans tout l'espace, c'était pas un studio à l'époque. La pièce était agréable, suffisamment haute, mais elle ne noyait pas les gens sous des volumes absolument ahurissants. J'ai trouvé qu'elle était à ma dimension, à ma mesure, à la mesure d'un ou de deux pianos de concert. Et je pense qu'après la réalisation que nous avons faite, chaque endroit a ses limites, bien entendu, mais il y a beaucoup de gens qui s'y plaisent. En tout cas, on s'y plaît tous. Christophe y est venu, on a passé du temps ensemble, etc. C'est quand même un endroit qui est très apprécié. Et le fait d'avoir eu ce, je dirais, ce coup de cœur pour cette usine, ou en tout cas ce gros atelier au départ, pérennise ce plaisir que j'ai eu à arriver dans cet endroit. Et je pense que c'est un endroit adapté. On m'en fait des compliments sur les vibrations qu'il peut avoir, la forme, la lumière du jour, sur plein d'éléments qui sont importants.
Alors c'est vrai que pour expliquer un petit peu aux auditeurs, la plupart des studios sont en général dans un endroit assez sombre, qui ne sont pas du tout éclairés par la lumière du jour, qui sont souvent dans des caves, en fait dans des blocos. Et le fait qu'on ait des quelques studios, parce qu'ils ne sont pas nombreux, avec des grandes verrières et autres, cela incite à y venir. Ça n'a pas été gênant justement ces verrières pour l'acoustique ?
Elles sont assez peu importantes, 8 mètres carrés de verrières sur des pièces de 95 mètres carrés avec des volumes un petit peu importants, c'est vraiment négligeable. Et en plus, on a trouvé des systèmes acoustiques qui nous permettent effectivement de ne pas avoir le retour direct de la verrière. Donc, c'est tout à fait négligeable.
Voilà. Alors, c'est vous qui avez conçu la sonorisation du studio ou alors vous avez fait appel à des spécialistes ?
J'ai fait appel à des spécialistes qui ont travaillé en tant que conseil. J'ai un ami qui s'appelle Patrick Vergne, qui a une société qui s'appelle Phony & Co, qui est spécialiste de la création de studios. Alors, il fait beaucoup de home studios, puisque c'est aujourd'hui le grand truc, c'est qu'il n'y a plus de studios qui appellent des musiciens. Maintenant, chaque musicien veut travailler chez lui, dans des conditions normales, dans son home studio. Donc, Patrick Vergne, Phony & Co, est un spécialiste de la boîte dans la boîte. Il est capable de faire des projets totalement acoustiquement imperméables, même dans des appartements, etc. Donc c'est lui qui m'a conseillé dans les termes techniques. Par contre, j'ai un ami architecte qui s'appelle Dominique Dumerle. J'ai beaucoup d'amitié avec plein de musiciens, d'ingénieurs. Philippe Avril, qui a un studio à Ivry, qui s'appelle Tex Avril. Des gens comme Yvan Cassard. Enfin, il y a beaucoup de gens avec lesquels je travaillais à l'époque, qui nous ont donné des coups de main. Un ingénieur qui s'appelle Stéphane Richard, qui est un ingénieur qu'on aime beaucoup,
ouais, qui
travaille
venu ici, d'ailleurs,
beaucoup
pour une interview.
À Davout, qui est un spécialiste de l'enregistrement du piano, de l'orchestre, etc. Donc toute cette masse de gens, d'amitié, de confiance, ça a été pour moi quelque chose d'important, parce que on a pu quand même beaucoup parler. À l'époque, on se voyait énormément. Je faisais avec Yvan Cassard la tournée avec Claude Nougaro. Et donc, ça a été beaucoup de concerts, beaucoup de moments où on papotait ensemble après des concerts super. Alors, c'est vrai que ça a fait avancer le projet dans des bonnes conditions. Et c'est vrai que ce qui est important dans ce projet, c'est que j'étais quand même au centre de tout un tas de conseils. Il y avait le conseil technique, on avait des envies avec l'architecte de faire les choses d'une certaine façon. Il y avait des ingénieurs qui nous disaient « Non, attention, ça c'est une bêtise, on ne peut pas travailler comme ça, il faut travailler la vision entre les cabines. » Donc ça nous a permis, avec du temps, parce qu'on a mis pas mal de temps à faire ce projet, ça nous a permis de faire quelque chose sur lequel je ne reviens pas. Il y a ses limites, je vous l'ai dit tout à l'heure. On fait des choix, on s'y tient. Mais j'aime bien les choix que nous avons faits.
Alors, en parlant de choix, qu'est-ce qui a été définitif dans votre vie pour choisir le métier d'accordeur à vos débuts ?
C'est compliqué parce que c'était il y a longtemps, c'était en 75. J'ai eu une phase de ma vie, c'est la seule dont il faut parler, qui est importante par rapport à cette question-là. J'ai eu un stage chez un revendeur de piano à Sainte qui s'appelait Piano Blanchard. Un stage, bien sûr, non rémunéré qui a duré 6 mois. Et le week-end, je rentrais à Bordeaux et j'avais un groupe de bal qui me permettait de vivre. Donc, c'est pas fantastique comme début, mais enfin, j'avais les deux possibilités. Je pouvais... J'avais quand même envie d'avoir un métier technique. J'aime beaucoup l'instrument piano, je l'ai toujours aimé. On avait un piano à queue dans la famille. Je suis musicien aussi, bien entendu. Alors, oui, il faut faire des choix. Ça a été plutôt un choix dans la technique. du piano plutôt qu'un choix artistique au départ. Pourquoi l'éducation, peut-être des pressions parentales, peut-être des choses comme ça, quoi. En province, le métier de musicien, c'est pas un métier formidablement reconnu, en tout cas dans ma famille. Et donc j'ai fait ces deux routes-là un petit peu en même temps, et j'ai eu la chance un an après de trouver, grâce à Alexandre Enlay, donc le patron de Piano Enlay, l'importateur de Steinway et de Yamaha à l'époque, vraiment un stage très très intéressant qui a été suivi d'une embauche qui a duré à peu près 13 ou 14 ans. Je me sentais sûrement pas la force de faire de la musique plusieurs heures par jour, d'être seul, etc. Je préférais peut-être une ambiance de travail à plusieurs et tout. En tout cas, c'est comme ça que j'ai démarré ma vie professionnelle.
Juste une petite question à Antoine. Vous auriez pas pu faire une carrière de concertiste ? Est-ce que c'est un type de métier vers lequel vous vous seriez tourné ?
En fait, je crois que les deux carrières finissent par se rejoindre à un moment ou à un autre, parce que je vois au départ, bon, j'ai choisi la voie de l'instrumentiste. Donc au début, on utilise les pianos qu'on a sous la main, on n'a pas le choix, mais plus le temps passe, plus on est exigeant, plus on discute avec les accordeurs avant les concerts ou les enregistrements, et on est obligé vraiment de savoir, puis c'est une question aussi de passion, on cherche le meilleur résultat, donc l'entente se augmente de plus en plus, et ça devient vraiment voilà, un travail à deux. Moi j'ai un accordeur depuis, quand je fais des concerts en France, enfin dans une certaine une partie de la France, j'essaie toujours de le prendre avec moi parce qu'il connaît mes envies, il sait comment régler l'instrument. Donc d'un concert à un autre, on peut encore améliorer le résultat. Donc ça devient une démarche très artistique. Je pense que l'accordeur a un rôle très important. Il peut changer beaucoup de choses pour un concert. On peut transformer un piano, on peut le rendre très éclatant, on peut le rendre beaucoup plus intime, beaucoup plus chaleureux. C'est déjà une partie de l'interprétation à discuter avec l'instrumentiste.
Et je dirais aussi que psychologiquement, c'est absolument incontournable. Il faut être en phase avec son technicien, bien sûr, je pense que... son piano, etc. Et l'accordeur sert aussi énormément à ça.
C'est vrai, on ne peut pas demander à l'accordeur de venir juste mettre le piano en marche avant le concert, même pas le croiser. C'est quelque chose qui serait très dommage. Non, il faut être là quand il travaille sur l'instrument, dire, faire quelques petits commentaires, on aimerait ci, on aimerait ça. Et c'est justement ça, je pense, que l'accordeur attend, c'est cet échange avec l'artiste qui va utiliser son instrument après. Donc ça, je crois que c'est très important. Ça se rejoint forcément. Dès qu'on rentre vraiment dans le domaine artistique, je crois que c'est pareil pour les ingénieurs du son, pour presque tous les corps de métier dans l'art, on cherche tous un idéal. En allant vers cet idéal, tout se rencontre.
Quel type de musique vous semble le plus en phase avec vous ?
J'aime beaucoup la musique ancienne, j'adore Bach, je joue du jazz, j'aime beaucoup le jazz, je sors très souvent pour aller voir mes amis qui viennent enregistrer, j'y suis à peu près 3 ou 4 fois par semaine, soit dans le coin, soit au New Morning, soit rue des Lombards, etc. Donc c'est un panel assez large, j'aime beaucoup l'opéra. Je suis assez ouvert à des belles musiques, enfin des musiques que je trouve belles, pardon, et qui en général ont besoin du piano. J'aime beaucoup le lyrique, des pianos-voix, voilà, tout ça. C'est ce que j'écoute, c'est ce que j'aime bien avoir au studio, c'est ce qui m'intéresse.
Et dans la variété actuelle, est-ce qu'il y a des artistes qui vous interpellent ?
Oui, bien sûr.
Je parle avec le piano. Hein.
Avec le piano. C'est plus difficile, c'est vrai qu'on prépare un projet avec les artistes Nouvelle Vague, j'espère que ça va pouvoir se faire avec des Sanseverino, Biolay, Delerme, etc. On doit les voir bientôt, avec tout ça en piano-voix avec un pianiste. Je ne sais pas exactement ce que j'écoute, ce n'est pas ma culture, etc. Mais on fait beaucoup de choses à Meudon. J'ai pas grand chose à dire sur ce sujet.
Non, parce que... aurait pu y avoir un artiste qui vous émeut en disant « Ah, celui-là, il est vraiment excellent par rapport à d'autres.
» Bah écoutez,
que ce soit américain, français ou ailleurs, enfin, je veux dire, en dehors
Des émotions, j'en ai très souvent. On a eu Serge Lama qui est venu enregistrer un morceau de voix pendant quelques temps au mois de septembre. J'avais une idée de ce qu'il faisait à une époque. Je ne m'intéresse pas formidablement à ce qu'il faisait avant. Et j'ai lu ses textes, j'ai été époustouflé. J'ai passé une soirée à lire ses textes tellement ça m'a branché, quoi. Donc, en tout cas, des émotions, on en a sur toutes les musiques. Il y a des beaux textes, il y a des gens qui se lancent, qui se mettent au milieu de la musique, et je trouve ça formidable.
Alors, on va revenir à ce studio avec ses pianos. Une question qui a été posée par Quentin de Tours, qui disait « J'aimerais bien que le concepteur nous explique plus en détail sa démarche consistant à construire un studio autour du piano et nous présente les choix techniques, acoustiques qui en découlent. » Alors, est-ce que vous aviez déjà une idée des pianos qui allaient être dans le studio quand vous avez imaginé le studio, ou alors vous avez imaginé le studio et vous avez mis les pianos après?
Non, j'avais pour répondre à Quentin, c'est une question qui est intéressante parce que c'est vraiment la base de la conception d'un studio. C'est vrai que je suis plutôt tombé dans le piano, j'adore cet instrument, j'y passe beaucoup de temps dans mon métier et ensuite dans ma vie puisque j'en joue. J'ai la chance d'avoir de très beaux pianos partout. Donc j'ai acheté des pianos avant d'avoir réellement le studio. J'ai acheté en 2000 deux pianos Fazioli, un 3/4 qui a fait la tournée avec Claude Nougaro pour Yvan Cassar, et un concert que j'ai acheté à un loueur qui est un de mes amis, mais qui avait acheté ce piano de concert très très beau, un Fazioli numéro 604, 2,78 m, que j'aime beaucoup, mais je pense que c'était un tout petit peu trop tôt en province pour louer du Fazioli. Il aurait mieux fait d'acheter un Steinway de concert pour le même projet, et il ne l'a pas loué suffisamment, et j'ai pu effectivement avec lui le récupérer en 2000. C'est un piano qui avait 4 ans. J'aime beaucoup cette marque, je trouve que c'est un pendant intéressant à la marque Steinway. Déjà à l'époque, en 2000, j'avais ce projet de faire un studio. Je venais d'acheter Meudon. C'était un projet que j'avais depuis au moins 10 ans dans la tête. Donc c'est une maturation importante. Deux pianos de concert, je trouvais ça intéressant. Parce que le pianiste, on lui propose jamais le choix dans les pianos. Je trouve qu'on a eu depuis quelques années des rencontres extrêmement intéressantes parce que justement, on peut fouiner un tout petit peu, regarder, découvrir, comparer. On peut faire des choses qu'on ne peut jamais faire. Et les pianos sont plutôt en très bon état. Donc, c'était clair pour moi qu'il fallait absolument un Steinway de concert, qui est le piano rassurant, qui est... On dit la Rolls, voilà, bon, on le dit, je le dis, c'est vrai que c'est un piano qui rassure tout le monde. Mettre un Fazioli à côté, c'était voilà, faire un truc intéressant pour les pianistes, pour nous, pour la connaissance de la marque Fazioli. J'aime beaucoup Paolo Fazioli, qui est l'ingénieur et le patron de cette marque, qui fait des choses remarquables, et ce sont deux pianos très très différents. Et on a eu souvent des pianistes qui venaient pour l'un et qui ont fini sur l'autre, et le contraire aussi. Donc ça reste un projet très intéressant.
Alors on parle des pianos Fazioli en disant que ce sont des pianos pour des très grandes salles de concert. Alors comment cela se justifie dans un studio ?
Dans un studio ? Alors c'est amusant cette question parce que c'est pas exactement l'avis des gens qui travaillent dans le métier. Ce qui est important dans un piano de concert, j'étais à Pleyel il y a 3 jours pour l'Orchestre de Paris. Il y a eu un pianiste à un moment qui est venu jouer du Steinway de concert. Il y avait 80 musiciens derrière. Ce qui est absolument incroyable dans le Steinway, c'est la projection de la table d'harmonie qui fait que le piano, bien sûr, est devant la scène. Le pianiste joue et on l'entend avec une très très forte précision, une clarté, une netteté... C'est d'ailleurs assez exceptionnel, je trouve. Voilà. Le Fazioli, au départ, n'avait pas cette capacité-là. Paolo Fazioli a beaucoup travaillé là-dessus, je pense, ces dernières années. Et c'est vrai que les derniers Fazioli ont, paraît-il, une table d'harmonie qui permet cette projection. Je pense que c'est assez nouveau et c'est pas un piano. Je trouve que le Fazioli, celui qu'on a, est un vrai piano de studio. Il est très orchestral, des basses absolument incroyables, un fruité dans le son, à un moment, on se disait que c'était pas un piano qui couvrait l'orchestre, ou en tout cas qui pouvait faire la part des choses avec un orchestre derrière. Bon, je peux me tromper, mais ce sont des choses qu'on a pu aborder avec des techniciens, même des spécialistes Fagioli. Je les connais, ce sont mes amis.
Tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Antoine ?
Peut-être deux, trois petites choses. Déjà, je reviens sur un des premiers points qui a été évoqué. C'est qu'effectivement, des bons pianos, c'est quelque chose qu'on suit à la trace quand on a la chance d'en croiser un. On aimerait prendre le numéro de série et pouvoir le commander après, parce qu'il y a effectivement assez peu de vraiment très bons pianos. Dans les salles de concert. C'est une chose importante. C'est vrai que pour un studio, si on a en enregistrement, on voit chaque millimètre, on est extrêmement exposé. Donc si on connaît le suivi de l'instrument, si on sait où on va, c'est effectivement pour l'instrumentiste, pour l'interprète, un très très grand confort. Donc ça, c'est une chose certainement très remarquable au studio. Si vous avez un instrument comme le Steno Eddé que vous suivez, que vous pouvez vraiment entretenir de bonne manière, c'est un très très grand luxe. Maintenant, en ce qui concerne les réglages des instruments, je pense qu'il y a peut-être moins d'interventions extérieures sur les pianos Fagioli. Je crois que les gens qui sont intervenus sur le son pour accorder et régler un petit peu les pianos Fagioli sont vraiment très très choisis. C'est pas n'importe quel accordeur ne va pas oser s'attaquer à un Fagioli tout de suite. Le Steinway a déjà un petit peu plus d'années d'existence, donc pas mal de personnes s'y lancent, et des fois malheureusement. Donc le son peut changer aussi radicalement. Je crois que il y a certaines personnes ont tendance à un peu exagérer la brillance de l'instrument qui est déjà très riche naturellement, ce qui fait qu'on a des instruments on le touche et puis on entend dans une salle de 2000 personnes et ça c'est un petit peu trop exagéré. Je crois qu'il y a eu une petite mode où le pianiste devait avoir peur qu'on ne l'entende pas. Ça a vraiment entraîner des pianos extrêmement clinquants où plus aucun son chaleureux n'était possible à tirer du piano.
J'ai à te répondre, Antoine, j'ai aussi à finir, il y avait une question de Quentin à laquelle je n'ai pas répondu. Donc Antoine, bien sûr, les gens de chez Fagioli sont triés sur le volet parce qu'on n'en vend pas beaucoup. Il faut quand même dire que le Fagioli n'est pas extrêmement vendu en France. Il faut s'implanter. Steinway a vraiment une grande, c'est pas un monopole, mais enfin une grande réputation.
Pour donner aussi une idée, pour les auditeurs, Fagioli, c'est 1981.
Exactement. Voilà. C'est un ingénieur, Paolo Fagioli, d'une marque de... Enfin, sa famille a des meubles Fagioli en Italie. Ils sont à Sacile, près de Venise. Et ça a été, je pense, la reprise du rêve de son père. Le père de Paolo voulait fabriquer de très beaux pianos. Et c'est Paolo qui a fait cette œuvre. Et je trouve que c'est une œuvre parce que le métier du piano est un métier extrêmement riche. D'abord au travers de toute la conception d'ensemble qu'il faut pour fabriquer des très beaux pianos. Sur toute la finition qu'il a entreprise, sur beaucoup, beaucoup de choses, sur le côté commercial. Il a fait vraiment une œuvre incontournable, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'admiration, c'est plus que de l'admiration, je trouve que c'est un génie. Mais bon, on est quand même dans une contrainte commerciale, il y a une marque très, très implantée. J'adore aussi les Steinway de concert, je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, et le Steinway de concert est très implanté partout, c'est une référence, ça rassure les pianistes, ça rassure les acheteurs, ça rassure les salles de concert, et c'est très difficile de s'implanter aujourd'hui avec une marque comme Fagioli. Donc il est normal qu'il y ait beaucoup plus de techniciens qui touchent à du Steinway de concert qu'à du Fagioli. Pour répondre à Quentin aussi, il m'avait demandé s'il était logique de mettre un piano de concert qui normalement doit servir à une projection dans une salle de concert, dans un studio. Alors je vais lui répondre très directement. Quand un piano de concert arrive dans un studio, en général, je trouve qu'il n'est pas adapté au niveau du son. C'est-à-dire, je trouve qu'il a raison. Piano de concert, il est harmonisé, comme tu le disais tout à l'heure, Antoine, pour être clinquant, pour passer au-dessus de l'orchestre, etc. et pour que même la dernière personne des 2000 auditeurs puisse l'entendre au bout de la salle, etc. Donc, quand un piano comme ça arrive dans un studio, pour moi, il n'est pas adapté. Donc, le travail qu'on doit entreprendre, et c'est celui que j'ai entrepris quand j'ai acheté en 2004 le Steinway de concert, c'est un travail sur la mécanique, sur le réglage, sur l'intonation, l'harmonisation, qui fait que le piano perd à peu près 20%, pas de sa projection, mais de son volume sonore. Parce que sinon, il compresserait des espaces comme un studio d'enregistrement et ça ne serait pas intéressant sur des gros fortissimo, sur des triples fortés.
Mais je pense que c'est peut-être pas nécessaire non plus dans les salles de concert, parce que justement, c'est ce qui se passe avec les pianos extrêmement clinquants. On ne peut plus avoir un véritable piano, pianissimo, qui sont pourtant audibles, même dans les grandes salles. Oui. Donc c'est toujours un compromis que moi, personnellement, en tant que pianiste, je n'aime pas trop, parce que la musique n'est pas toujours fortissimo, 100%. Mmh. C'est que vraiment des points très localisés. Et on aimerait tellement, principalement, avoir des nuances dans le doux qui ne sont maintenant que très rarement disponibles, même dans les grandes salles de concert.
Je ne suis pas forcément d'accord, parce que quand il y a un vrai entretien, un vrai suivi sur les pianos, et je pense qu'à Paris, on a quand même cette marque Anlet, ils font un travail remarquable. Il y a un monsieur qui s'appelle Helmut Klemm qui fait un travail absolument colossal depuis 50 ans maintenant pour Steinway.
Et
les pianos sont extrêmement bien préparés. Ouais. Alors le côté clinquant.
Là je parlais de la catégorie un petit peu en dessous. Évidemment, ces gens-là sont absolument irréprochables.
Je vais rajouter quelque chose quand même à votre dialogue sur le fait que lorsqu'on va sur certains festivals, je pense à des festivals dans le sud de la France qui utilisent des Steinway. Et je suis étonnée parce qu'il y a eu des pianistes qui sont venus ici qui ont joué sur ce petit Yamaha droit. Et lorsqu'ils jouaient en studio, le piano avait plus d'impact et de force que le Steinway qui était loué pendant le festival. C'est-à-dire que le Steinway, finalement, n'était pas traité comme il aurait fallu par les techniciens.
Alors là, il faut quand même parler de ce qui est très important pour un pianiste et pour un piano, c'est le retour du son. Quand on est dans un festival comme il y a dans le sud de la France, le pianiste n'a aucun retour du son. Il joue et le son s'éparpille partout, il est dehors en général. Ici, il y a une sonorité, il y a une pièce qui a été traitée, c'est un studio. Ce petit Yamaha, s'il est très bon, s'il est adapté à sa son acoustique, il doit faire plaisir. Et le pianiste va participer, le piano va avoir un retour qui va être peut-être plus intéressant à travailler pour le pianiste que d'avoir un piano de concert dont la sonorité part et lui n'a rien dans les oreilles.
Mais c'est vrai que le pianiste a la plus mauvaise place. Ce qu'il produit.
Surtout dans un endroit qui est ouvert. Il n'a pas de retour. Il joue et la musique part. En studio, par contre, on contrôle beaucoup mieux le retour, les effets de pièces, les effets acoustiques. Et le pianiste doit avoir quelque chose d'intéressant dans les oreilles quand il joue. Mais c'est vrai que, comme dit Antoine, c'est pas forcément la meilleure place quand on est au piano. Les micros ne sont pas mis forcément derrière les oreilles du pianiste. On les met plutôt sur l'ouverture du piano.
J'ai une petite question. Quand vous enregistrez en studio, vous mettez le couvercle du piano ou vous l'enlevez complètement ?
Il y a ces deux options. On peut mettre le couvercle. Ça permet, quand on est dans une musique d'ensemble, d'orienter quand même la diffusion du son. Mais souvent, on l'enlève parce que pour faire...
Parce que la projection n'est pas forcément nécessaire.
Elle n'est pas forcément nécessaire. Et il y a des résultats qui sont très très différents en enlevant le couvercle, en venant mettre des micros du côté basse du piano, donc du côté gauche, ce qui ne se fait jamais normalement quand il y a le couvercle. Les rendus sont très différents. Il faut quand même beaucoup travailler sur les problèmes de phase. Mais il y a une plénitude, il y a une richesse du son qui est vraiment intéressante aussi quand on enlève le couvercle.
Et comme type de son, un Bösendorfer ne vous a jamais attiré ?
Alors j'en ai eu un concert Bösendorfer que j'ai vendu il y a une dizaine d'années pour acheter le Fazioli. Je pense que le Bösendorfer que j'avais faisait partie de très très beaux pianos, mais ils étaient un tout petit peu lourds au niveau de la mécanique. Conception des années 70-75. C'est un piano de 1975. Et ensuite, Bösendorfer a eu, je dirais, des fabrications différentes. Il y a eu un moment, il y a 10 ans, où Bösendorfer était extrêmement léger. Ensuite, c'est redevenu un petit peu plus lourd. Maintenant, c'est la corporation Yamaha qui vient de racheter Bösendorfer. Peut-être qu'ils vont, grâce à leurs possibilités financières et techniques, remettre une sorte de norme Bösendorfer en route. Mais pour l'instant, ce n'est pas ça. Le problème, quand on doit faire des choix sur des pianos, il faut faire des choix qui vont donner aux pianistes qui viennent des vraies références. Bösendorfer a été à un moment une vraie référence, mais avec des mécaniques un tout petit peu lourdes. Certaines pianistes femmes avaient du mal à contrôler, ou en tout cas se fatiguer, etc. Je trouve que Fazioli, Steinway sont des références pas forcément plus prestigieuses, mais en tout cas qui permettent à des musiciens de se caler sur ce qu'ils vont faire, de préparer dans leur tête le projet, etc. Bösendorfer a eu plus de vagues dans sa fabrication.
Alors, question de Loïc et également de Quentin, également la mienne, également celle de beaucoup d'auditeurs. Vous avez donc deux pianos qui sont accordés sur des tons, l'un à 440 et l'autre à 442. Pourquoi cette différence ?
C'est une différence que j'ai voulu, pas forcément au départ. Au départ, ils étaient sur le même diapason, qui était 440. C'est une différence que j'ai voulu parce que, malheureusement, on n'est pas arrivé à se caler dans le domaine de l'enregistrement et le domaine de la musique sur un diapason unique. C'est pas possible, on n'y arrive pas. La musique qui arrive anglo-saxonne, outre-Atlantique, etc., arrive à 440. Beaucoup de classiques aiment bien le 442, voire plus. Et donc, le problème, ma responsabilité, est d'avoir des pianos qui soient les plus stables possibles. C'est de fournir des pianos qui vont tenir l'accord pendant une séance. Si on passe notre temps à modifier cet équilibre, passer un piano tout le temps de 440 à 442, c'est pas énorme. Il y a beaucoup de gens qui n'entendent pas réellement la différence. Tous les musiciens l'entendent, bien sûr, moi aussi. Mais il y a beaucoup de gens pour lesquels ça fait pas une différence colossale. Mais pour le piano, c'est quand même une modification de la tension qui se répercute forcément sur la qualité de la tenue d'accord. Et j'ai fait le choix d'avoir un Steinway à 440 parce que je trouve que plus de projets, je dirais de variété ou anglo-saxon ou de jazz, etc., qui n'ont pas de réel problème avec le diapason, vont prendre le Steinway. Et donc à 440, ça ne pose pas de problème. On a mis le Fazioli à 442 pour les classiques qui veulent faire du piano et cordes, parce que c'est en général celui-là qu'on va me demander pour le classique. En tout cas, nous, on impose un diapason. Si vous voulez un 442, ça sera forcément le Fazioli. Et on essaie de tenir le coup pour respecter la stabilité de l'instrument. Ce qui est, à mon avis, le plus important dans un enregistrement.
Est-ce qu'il y a des musiciens, que ce soit en classique ou en baroque, qui peuvent vous demander encore de baisser ou de monter le diapason ?
En général, j'essaie de refuser. D'abord, ce n'est pas une demande fréquente. Comme ce n'est pas une demande fréquente, je préfère privilégier la loi du nombre, c'est-à-dire des gens qui veulent ces deux diapasons-là, pour la stabilité. J'ai des pianos vraiment qui sont stables, qui bougent peu, qu'il est agréable aujourd'hui d'avoir dans un environnement hygrométrique et de température vraiment très stable. Et c'est intéressant, je trouve, de pouvoir entretenir des pianos qui ne bougent pas. Déjà, ils ne sortent pas du studio, on ne les loue pas. C'est plus intéressant, je trouve.
Alors, question également de Quentin. Le fait de proposer deux pianos de style et d'accords différents est-il un critère déterminant pour les pianistes qui viennent au studio ?
Je pense que c'est un élément de curiosité qui est pour moi fondamental. Oui, il y a des gens qui ont changé d'avis. Ils venaient pour un piano et puis ils enregistraient avec un autre, que ce soit du classique, du jazz. Le fait d'avoir le choix, pour moi, est un élément déterminant dans la gestion des musiciens qui viennent à Meudon. Parce que enregistrer, c'est quelque chose de stressant. Je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que c'est quand même le quotidien. On reçoit des gens qui ont beaucoup travaillé sur un projet, qui sont prêts. Je pense qu'il ne faut pas les décevoir. Le fait qu'ils aient pu, un mois avant, deux mois avant, venir essayer les pianos, choisir l'un ou l'autre, fait qu'ils sont déjà dans une ambiance où ils ont choisi quelque chose. On leur impose le moins de choses possible. Voilà. Alors ça, un endroit agréable, un piano qu'ils ont choisi, un travail de préparation qui les valorise, qui leur permet d'avoir du plaisir et tout. Je crois que c'est vraiment la base même de mon projet.
Alain va poser une question.
Comme je ne suis pas pianiste, ça va être une question sur le volume du studio. Est-ce que vous avez calculé le volume en fonction du son que vous vouliez obtenir d'un piano, ou est-ce que vous aviez la pièce et vous vous êtes dit on va la travailler pour que l'acoustique soit bonne? Ou alors, au contraire, est-ce que vous avez carrément redivisé l'espace que vous aviez pour obtenir le volume que vous cherchiez par rapport aux instruments que vous proposez?
C'est une question complexe. Dans les choix que nous avons faits architecturaux, de positionnement des cabines, il était clair que nous avions besoin aussi de cabines, qu'on appelle des booths, des petites cabines d'enregistrement, qui sont isolées, qui permettent d'isoler certains musiciens par rapport au piano. On avait ces besoins-là, on avait les besoins effectivement d'une adéquation entre la pièce principale où il y a les pianos et puis ce qu'on veut entendre à l'enregistrement. Tout ça faisait partie d'un lot commun sur lequel on a réfléchi d'une façon complète mais tout ensemble. Nous avons fourni au piano une pièce qui est suffisante, c'est-à-dire à peu près 95 mètres carrés, un faîtage qui est à 4,30 mètres à peu près, donc c'est un volume qui est intéressant, qui est suffisant, mais j'ai aussi, je vous le disais tout à l'heure, baissé un tout petit peu le volume des pianos, surtout le Steinway qui est arrivé assez clinquant. Il avait été loué 4 ans par les pianos en lait dans les grandes salles de concert, joué par des grands pianistes, etc. Donc nous, notre but est d'avoir une adéquation entre la pièce et le piano. Alors, est-ce qu'on a travaillé la pièce pour les pianos? Non. On a eu un volume potentiel que nous avons isolé, sur lequel nous avons ensuite travaillé l'acoustique. Mais ensuite, quand le piano est arrivé, le Fazioli n'a jamais compressé cet espace, mais par contre, le Steinway le compressait. Et donc, il y a eu un travail de ponçage, d'harmonisation, d'intonation, qui fait que, jusqu'à un triple forte, que j'apprécie pas forcément pour mes pianos, il n'y a pas de grosses traces de compression.
Donc en fait, on pourrait dire que presque vous avez fabriqué un instrument qui est complet, c'est-à-dire que le piano étant dans une pièce, ça fait un instrument, les deux font un instrument.
Je pense que c'est ça, le piano, le retour de la pièce, tout ça, oui, fait la sensation qu'on peut avoir quand on met des beaux micros et qu'on veut faire plaisir à un pianiste, oui, je crois que c'est ce qu'il faut. En tout cas, on tend à ça. Je ne vous dis pas qu'on arrive à la perfection, ça n'existe pas. Donc oui, c'est mon métier, en plus j'aime ça. Je ne fais pratiquement plus d'accords de piano pour les autres, je ne les fais que pour moi, je ne suis plus accordeur de piano officiel, je ne fais qu'entretenir mes pianos, et c'est quand même assez exaltant, quoi, tout simplement.
Juste une question de Candide par rapport à deux pianos qui se trouvent dans une salle d'enregistrement. Il n'y a pas un problème de résonance d'un des pianos quand on enregistre l'autre?
Non, d'abord parce qu'ils sont à 10 mètres l'un de l'autre, parce qu'il y a des étouffoirs qui permettent donc d'avoir une vraie étanchéité des cordes, on ne les entend pas. Et puis qu'il y a, je crois, beaucoup d'autres problèmes annexes à résoudre avant de commencer à se titiller la tête sur ce projet-là. Non, il y a... Bien sûr, s'il y a un enregistrement et qu'on a un problème de pédale sur le piano qui va résonner tout seul dans son coin, là, c'est pas terrible. Mais ça peut être un effet recherché, c'est amusant. D'ailleurs, il faudra qu'on essaie de regarder ce que ça donne. On peut, il y a des tas d'avancées dans le piano, la quatrième pédale. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui peuvent être essayées dans le piano. En tout cas, ça, on ne l'a jamais fait. Il nous arrive néanmoins, on a une cinquième cabine qui est un petit peu au-dessus, qui sert de salle de billard, de bar, etc., et qui est une pièce assez résonante, une pièce qui fait 45 mètres carrés, qui est en plus du studio. Il nous arrive quand même de temps en temps d'ouvrir la grande porte vitrée qui sépare la pièce des pianos d'enregistrement de cette pièce-là, et de mettre des micros juste pour récupérer le son lointain plus la réverb de cette pièce de 45 mètres carrés. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans le son, dans la musique, dans la préparation des pianos, dans le positionnement des micros. C'est d'une richesse absolument inouïe.
Et sur le choix des micros, vous les avez aussi, vous en avez testé une bonne dose sûrement, parce que ça peut énormément changer l'impression
ah oui, bien sûr, oui,
de l'ensemble.
On les teste tous. Je dois vous avouer que c'est pas mon métier. Moi, je reste avec mes oreilles. Quand je suis derrière la console, c'est pas pour toucher les boutons, c'est pour regarder. On a une équipe qui travaille là, d'ingénieurs, qui sont soit des ingénieurs maison, soit des ingénieurs qui viennent avec les artistes. Donc, notre but et de les accueillir, mais c'est vrai que mes oreilles, effectivement, servent à regarder si je sens que le micro est bien choisi, que le préampli dans lequel on le branche est le bon, si le micro est bien positionné, si tout ça, etc. Et puis en plus, chaque musicien a ses envies, c'est affolant, les possibilités qu'il peut y avoir pour ça. Alors oui, on essaie des micros, on essaie d'en acheter régulièrement. C'est pas facile, on aimerait en avoir des centaines, on doit en avoir une quarantaine ou une cinquantaine, c'est déjà pas mal. On a beaucoup de préamplis différents. Là aussi, ce sont des choix que nous avons fait au départ, de pas avoir une table de mixage unique avec un son de préamplificateur unique. On a eu envie plutôt d'avoir une multiplicité de marques de bonne qualité ou d'excellente qualité de préamplificateur, de manière à travailler les couples micro-préamplificateur. En changeant les micros, on a des choses différentes. En changeant les préamplificateurs, on a des choses également différentes. Et donc, ça permet de regarder un petit peu, de proposer, d'avoir une offre un petit peu plus ouverte.
Alors justement, c'est une question de Quentin qui tombe à pic. Les musiciens viennent-ils au studio de Meudon parce qu'ils savent qu'ils pourront y trouver une palette de sonorités très large dans les différents pianos, la choix de micro allant de DPA à RCA et de préamplificateur allant de Millenia à Manley? Est-ce que c'est ça qui...
Je crois que tout fait partie du choix d'un musicien, d'un ingénieur. Tous ces éléments-là en font partie. Est-ce qu'ils sont déterminants? Je pense que ce ne sont pas forcément les priorités. On peut toujours louer un micro, on peut toujours louer un préamplificateur, on peut avoir un ingénieur qui vient avec son propre matériel. Ça, ce sont des choix qu'on fait et ils nous permettent de faire beaucoup de choses. Après, je pense que les gens viennent vraiment à Meudon pour, je pense, les pianos, l'endroit, la convivialité qu'il y a. Et c'est un endroit très agréable à vivre, à partager. On fait des choses très sympathiques dans cet endroit. Parce qu'il se vit des bons moments et que ça fait partie de la musique et que on peut arriver à faire baisser assez considérablement les tensions quand il y a de la lumière, quand il y a de la gaieté, quand le café est bon, quand il n'y a pas que des micros et des préamplis, il y a des musiciens qui s'en foutent éperdument. Ils font confiance à un ingénieur et voilà. Parce qu'il faut vraiment déléguer quand on est musicien. Il ne faut pas s'occuper de tout.
Et puis à vous. Je pense que vous êtes la partie déterminante du studio, en fait.
Moi, je ne suis pas une partie déterminante. Vraiment pas, je le dis sans fausse modestie. Je ne suis d'ailleurs pas là souvent, parce que j'ai une autre activité qui me prend beaucoup. Je suis là pour m'occuper des pianos, pour recevoir les gens, surtout avant les projets, pour passer boire un café pendant que ça enregistre. J'aime bien, on papote, on se fait un feu, on essaie de faire évoluer les choses. J'aime bien aussi mettre mon oreille sur le son, parce que c'est vrai que c'est le seul côté du studio qui me plaît vraiment. C'est cette traduction qu'il peut y avoir entre la musique réelle qui se fait avec les instruments et puis ce qu'on en entend dans les enceintes. Et tout ça avec nos moyens, on a deux paires d'enceintes, on a les micros dont on a parlé tout à l'heure, etc. Donc on essaie de faire la traduction qui nous plaît le plus, ou en tout cas qui plaît le plus à la production ou aux musiciens. Mais je pense que moi, mon positionnement dans cet endroit, c'est de m'occuper de mes passions, les deux, c'est-à-dire les instruments et les gens. Voilà, et ce qui se fait avec les deux. Voilà. C'est ça qui me passionne, c'est pour ça que j'ai un studio.
Est-ce que vous êtes aussi difficile dans les choix des instruments de musique par rapport au choix des pianos, je vois, par rapport à la batterie et autres?
Écoutez, viens de passer 5 ans à acheter un Orgamon B3 de 1962. 5 ans, c'est pas rien, je l'ai reçu il y a 3 semaines. C'est un monstre, on s'y perd, j'adore. C'est un instrument qui est remarquable, dont on avait besoin. j'en ai essayé 25. Enfin, je me suis beaucoup bougé pour acheter ça. Oui, j'ai une envie, si possible, d'absolu. Voilà, quoi, on a beaucoup de références dans la tête, on a des références de son dans les oreilles, et j'ai pas envie d'avoir n'importe quoi. Juste pour écrire une ligne de plus sur ma liste de matériel, on a des pianos Rode, qui sont des pianos vintage, enfin d'époque, des années 70, avec des touches bois. On a un Wurlitzer, on a des choses qui parlent pas beaucoup aux musiciens classiques, mais qui parlent beaucoup aux gens qui veulent du vintage, quoi, qui veulent des vrais instruments. Donc je les règle aussi, ou je les fais régler par des amis quand je n'ai pas les compétences. Notre offre, contrairement à la question de tout à l'heure, notre offre aujourd'hui est beaucoup plus dans les instruments et l'endroit.
Est-ce que vous avez des questions à poser, ouais. Christophe ?
Petite question, Bernard. À quelle fréquence est-ce que tu mets les mains dans tes pianos ? Est-ce que c'est tous les jours, plusieurs fois par jour ?
Plusieurs fois par jour.
Matin et soir ?
Oui, quand il y a des enregistrements,
avant de coucher,
c'est ouais. un bon accord le matin, mais vraiment un bon accord. Alors attention, un bon accord, j'ai dit tout à l'heure que les pianos étaient stables. Je vais pas me contredire. Un bon accord, c'est souvent trois quarts d'heure à fignoler l'accord de la veille. C'est-à-dire qu'il y a quelques petits unissons qui ont légèrement bougé, et vraiment pas beaucoup. C'est plus des légers scintillements dans le son que des amplitudes de désaccords. Ça n'arrive pratiquement jamais. Et c'est vraiment du fignolage. Ça peut être un tout petit peu de réglage. Ça peut être aller travailler 3-4 marteaux qui ont un petit peu trop de clinquant par rapport à la moyenne. Donc vérifier l'intonation, vérifier l'harmonisation. C'est vraiment du travail de finition plutôt très haut de gamme, quoi. C'est ça qui m'intéresse. On n'a pas à reprendre le piano tous les jours. On vient essayer de donner...
Perfectionnement.
Voilà, du perfectionnement. Et c'est pour ça que ça me plaît. Ça serait absolument épuisant de refaire un accord tous les matins, un accord qui est énormément bougé. Je n'ai jamais à le faire. En général, quand un projet démarre, sur plusieurs jours, la première matinée, elle ne sert qu'à faire du réglage. C'est du réglage de casque, c'est du réglage de positionnement de micro, de son. Il faut que les musiciens soient ravis de leur son. Tout ça, ça prend du temps. Si l'accordeur passe à 14 heures, retouche le piano, même si c'est pour des toutes petites bricoles, c'est fantastique parce que, en général, l'enregistrement démarre après, tout le monde est bien, ça a été très rassurant. Voilà, c'est une de mes fonctions aussi, c'est de rassurer.
Quand on vous voit aussi Papa Poule avec vos pianos, cela vous arrive par moment d'avoir des gens qui viennent enregistrer, qui voudraient martyriser le piano et vous leur dites dehors ?
Ça peut arriver. C'est désagréable parce qu'en général, c'est pas volontaire de leur part. C'est un niveau de stress qu'ils ont qui n'est pas résolu. Ils arrivent, ils ont peu de temps, ils ont peu de moyens, ils veulent enregistrer sur un très beau piano et ils sont pas à leur place, tout simplement. Je pense pas qu'il y ait de pianiste qui ait envie de martyriser le piano. Ils vont aller chercher des choses, effectivement, peut-être dans des fortés assez puissants, etc. Mais curieusement, ceux qui sont à leur place ne font pas bouger le piano. Ceux qui sont stressés le font bouger. On a eu, il y a peu de temps, un enregistrement où pour la première fois de ma carrière de responsable de studio, j'ai dit à la personne qui était là, je suis désolé, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas prendre des risques sur mon piano pour vous, alors que 99,9% des pianistes vont jouer d'une façon... Il faut absolument trouver une autre solution. Je peux pas, on va casser des cordes, c'est pas bien. Donc j'ai failli, effectivement, arrêter la séance.
Et vous l'avez pas fait ?
Je ne l'ai pas fait. Par contre, je suis resté très présent. Je l'ai dit à la pianiste, ce qui n'est pas bien, parce que ça l'a encore rajouté une couche de pression. Je m'occupe quand même beaucoup de la pression qu'il peut y avoir, nerveuse, du stress, de la mise en bouche, en fait, du truc, quoi. C'est vraiment très important. Dans l'enregistrement, on fait des belles choses quand il y a une vraie adéquation entre les gens, quand les gens sont à leur place, quand c'est le bon moment. Je crois pas à un enregistrement qui se ferait comme ça, allez, 3-4, etc. Ça n'arrive jamais. Quand les gens sont bien, on fait des premières prises qui sont magiques. Mais c'est pas la première. qu'on fait au début, c'est pas vrai, ça n'arrive jamais.
Antoine, quand tu vois quelqu'un comme ça passionné par les pianos niveau technique, est-ce que ça te tente d'aller enregistrer chez lui?
Absolument, c'est vrai que c'est pas uniquement sur les pianos, mais sur le côté aussi rassurant, sur le côté ambiance. C'est vrai que un enregistrement, c'est toujours quelque chose de très délicat qu'il faut préparer vraiment de manière très précise. Mm-hmm. S'attendre aussi à une ambiance, c'est intéressant parce qu'en studio, on a un petit peu tendance à oublier qu'on joue vraiment pour quelqu'un. Mm-hmm. Quand on est dans un endroit complètement insonorisé dans tous les sens, qu'on voit pas la lumière du jour, on n'a plus aucune notion. À partir de 2-3 heures d'enregistrement, on finit par disjoncter un petit peu et on se demande ce qu'on fait là. C'est bien d'avoir ce côté vivant, ça permet de jouer avec la sensation de concert. Si on sait que quelqu'un écoute, c'est tout de suite, on peut se dépasser un petit peu plus. C'est vrai que l'enregistrement, il y a le côté technique, mais il faut pas oublier le côté artistique de l'interprétation. On a besoin de... Il y a un petit côté magique qu'il faut faire vivre pour obtenir justement le meilleur enregistrement possible. Mmh. Sinon, ça peut être techniquement parfait, mais très plat ou très vide de sens. Donc, je crois que cette ambiance est certainement une des choses les plus importantes pour le résultat final.
Pour être passé plusieurs fois au studio, j'ai vraiment l'impression de ne pas rentrer forcément dans un studio. J'ai l'impression d'arriver chez toi presque. C'est-à-dire que l'endroit où il y a les pianos, ce n'est pas une cabine de prise comme on le voit ailleurs. On a l'impression que c'est un espèce de loft avec un canapé, machin. On se dit que le soir, tu peux très bien descendre là, regarder ta télé, que c'est chez toi en fait. Et la cuisine, c'est pareil.
J'ai pas d'autorisation à demander.
Hein. J'espère bien. Et la cuisine, c'est pareil, c'est une grande cuisine. On s'imagine bien une grande tablée en plein hiver. Alors,
attention,
c'est
vraiment la cuisine des professionnels. Parce que nous, on habite au-dessus du studio et nous, on a aussi notre cuisine, notre salon, etc. On ne vit pas là, bien entendu.
J'imagine bien, mais on s'imagine bien, par exemple, avec le temps qu'il fait, le midi, la petite pause tartiflette avec tout le monde autour de la table, enfin, la bonne ambiance.
C'est l'époque de la tartiflette.
Très sympa, voilà.
Donc, c'est froid qui fait
c'est
ça.
Vraiment, c'est vraiment, non, mais quand on dit depuis tout à l'heure que l'ambiance y est bonne, c'est vraiment ça, qu'on a l'impression d'arriver à la maison, quoi, dans un grand loft où
voilà.
On est bien,
alors,
il y a de l'air.
Justement, on y vient, à la maison, c'est l'expression que j'entends tout le temps. On enregistre, on est comme à la maison. Voilà, c'est ce que j'ai voulu faire dans ce projet. J'ai fait ça parce que je trouve que c'est très riche. Le métier du piano est riche. Recevoir des gens, c'est absolument exceptionnel d'avoir des musiciens de grande qualité, de toutes les musiques qui viennent enregistrer chez vous. Alors, c'est vrai que leur donner un endroit qui me plaît, que j'aime, qui n'est pas forcément adapté à certains musiciens. Il y a des musiciens qui aiment s'enfermer, qui aiment ne pas voir la musique du jour, qui aiment avoir un bloc de béton. Moi, c'est pas ma vision des choses. Je préfère qu'on me dise « Tiens, c'est très chouette chez toi, j'adore venir y enregistrer parce que je m'y sens bien. J'ai pas envie de faire quelque chose de froid, je suis pas quelqu'un de froid, je suis bien dans cet endroit, moi-même. » Voilà.
Moi, j'adore le lapsus. Musique du jour au lieu de lumière du jour.
Ah, il faut reprendre.
En quoi ? Non, pas du tout. Je trouve ça très beau. Et en quoi la musique fait vraiment partie de vous ?
Oh, ben, elle fait partie de moi 24 heures sur 24.
Et c'est la lumière chez vous ?
C'est un grand soleil. Il n'y a pas que ça. Hein. J'ai des enfants, j'ai beaucoup de choses dans ma vie. Mais la musique, c'est un vecteur incroyable de ma pêche, de mon énergie. Je vis 18 heures par jour dans la musique. C'est affolant.
Deux petites secondes, je fais très vite. Excusez-moi. Non, Bernard a dit tout à l'heure qu'il n'était pas beaucoup au studio parce qu'il avait d'autres activités, donc on peut peut-être saluer les membres de l'équipe qui bossent au studio au quotidien. Moi, j'en connais quelques-uns. Je connais Marc, Cyril et Jean-Paul. Je ne sais pas s'il y en a d'autres.
Oui, il y en a d'autres. Alors, Marc Guéroux, qui est un ingénieur externe, mais qui vient souvent à Meudon. Cyril Coutan, qui est un ingénieur aussi, qui est lui plus ingénieur maison. Julien Bassère, qui est aussi ingénieur. On vient de faire un projet de Claude Bolling en piano solo avec lui. C'est lui qui a été l'ingénieur. Il est aussi le responsable technique du studio. Jean-Paul Gonneau, qui est notre grande révélation. Il est venu s'installer il y a un petit peu plus d'un an à Meudon. On lui a fait une pièce de mixage. C'est un ingénieur très réputé qui a travaillé 8 ans à plus 30 avec des stars dans tous les sens, avec lequel on cultive un vrai partenariat. Et moi, à côté, quand je ne suis pas au studio, c'est-à-dire la majorité du temps de ma vie professionnelle, à peu près 10 heures par jour, je suis un installateur de systèmes silencieux dans les pianos acoustiques de France et de Navarre. Voilà, et je travaille beaucoup pour les revendeurs parisiens, c'est mon métier, et je fais surtout les pianos qu'on me propose, plusieurs centaines de fois par an, pour permettre aux musiciens qui arrivent tard le soir dans son appartement de retrouver la liberté de jouer sur son piano. C'est mon métier depuis 15 ans. C'est quelque chose que je trouve fantastique aussi. Ça amène beaucoup de nouvelles technologies au piano et ça amène énormément de liberté aux gens qui ont un piano chez eux.
Bien, merci Bernard. Bonne chance, bonne suite. Et puis, ben, j'espère vous revoir dans nos studios.
Merci Marion.
Donc, nous recevions Bernard Follon du studio de Meudon, ainsi qu'Antoine Bouvy. Au revoir Antoine. Christophe Bouillot, qui a toujours la dernière question au moment où ça s'arrête. Et Alain Le Kim, qui est en train de mitrailler Bernard. Allez, bonsoir, autre radio, autre culture, à très bientôt. Autre radio, autre culture.